Et alors cette fois, pour casser un stéréotype, souvent les femmes en Russie gagnent plus que les hommes.
Oui, et d'ailleurs encore une fois pour casser un stéréotype, alors c'est vrai que les femmes par exemple sont très peu présentes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, mais je n'ai pas la statistique exacte en tête, mais il me semble que c'est plus de 80% ou autour de 80% des directeurs de petites et moyennes entreprises qui sont des femmes. Voilà, donc elles bossent, quoi. Elles font vraiment bouillir la marmite, mais parce qu'il y a un sens des responsabilités qui est très conséquent. Elles peuvent pas se permettre de mal gagner leur vie, parce qu'elles en ont
d'accord. Donc elles ont parfois aussi plusieurs travails.
Oui, ingéniosité. Alors après, voilà, je cite. Bah oui, une jeune femme par exemple qui était, je crois, cancérologue, qui est obligée d'être visiteuse médicale, disons, deuxième vie. Une prof qui fait du shopping privé pour des riches clientes. Voilà, c'est la débrouille, moi. C'est vraiment le système D comme ADN de la femme moscovite et de la femme russe, oui, je pense, vraiment.
D'accord. Donc effectivement, là, les stéréotypes qu'on peut en avoir, on prend une petite claque au passage.
Merci, c'était le but.
C'est d'autant plus étonnant que c'est juste la réalité. Et des choses qu'on n'entend pas trop souvent. Tu disais tout à l'heure très bien qu'elles attendent finalement la transformation des hommes pour les accompagner dans cette... Voilà, dans ce changement qui est quand même très important de leur côté. Et j'ai juste un petit passage à lire. La transition économique brutale des années 90 n'a fait qu'accentuer le déséquilibre des rôles. Pendant que les hommes noyaient leur désœuvrement dans l'alcool, les femmes se sont lancées dans la petite entreprise et n'hésitent toujours pas à accumuler des boulots ingrats. Dès le milieu des années 90, les statistiques montrent que les femmes avaient un revenu 50% supérieur à celui des hommes. Nous avons pris l'habitude de considérer les hommes comme des enfants malades.
Ben c'est ce qui explique le désamour des Russes pour le mot féminisme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent bah oui, je suis une femme forte, oui, je porte tout, mais c'est pas ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'elles ont une incompréhension, ou en tout cas il y a une méprise de base sur l'histoire du féminisme. Le féminisme, c'est pas écraser les hommes, c'est pas les faire disparaître, c'est simplement trouver un système de partenariat qui fonctionne. Voilà. Et en fait, elles aspirent à ce système de partenariat qui fonctionne. Elles vont pas mettre dessus l'étiquette féministe, c'est tout. Mais elles ont, et vraiment...
On sent pas leur plainte par rapport à ça.
Oui, alors c'est peut-être quelque chose que j'ai pas assez évoqué. Il aurait peut-être fallu faire dans un open space. Ça m'avait frappé une scène comme ça où vraiment c'est ce qu'on appelle Jinsky Collectif. C'est un bureau, je sais pas, il y a 70 personnes, il y a 60 femmes. Et la pause café, enfin thé plutôt, la pause thé, c'est un concert sans fin de récrimination sur les hommes.
Voilà. Elle s'exprime quand même sur le sujet.
Elle s'exprime pas mal sur le sujet. Mais bon, pas à notre façon, elle s'exprime en disant.
Le livre parle aussi de sujets plus durs, comme le sida, la violence, la question de la religion, de la maternité, les pots de vin. Tu cites, je crois, tu nommes un site internet qui recense les pots de vin selon leur type, les régions et le coût. C'est assez impressionnant, je pense.
C'était vraiment de la naissance à la mort, en fait. C'était un hebdomadaire moscovite qui avait fait comme ça, effectivement, un panorama d'ensemble de la corruption dite quotidienne. C'est-à-dire pas des opérations crapuleuses sur des marchés publics, mais vraiment... vraiment sur la vie quotidienne. Et depuis la maternité, sur trouver le bon obstétricien, être sûr qu'il va bien vous soigner, être sûr d'avoir la péridurale au bon moment, la césarienne s'il le faut, etc. Donc ça, tac, ça, on va mettre un petit billet. Ensuite, pour l'entrée à l'équivalent de l'école maternelle, tac, un petit billet. École primaire, tac. Et en fait, d'ailleurs, bon, c'est à mon avis un des facteurs qui explique ce ras-le-bol qu'on a observé en Russie, c'est ça, c'est que c'est une société qui est viciée, mais vraiment de A à Z, des institutions aussi importantes que l'école et l'hôpital sont vraiment au cœur de schémas
la santé, l'éducation, la naissance.
Ah, voilà. Donc là, on est vraiment dans le basique. Là. On ne fait pas des grandes théories, c'est le quotidien et c'est tout le temps. Et je crois que ça agace les gens, ça les épuise. Mais, parce que c'est quand même, il faut déployer des trésors d'énergie pour trouver à chaque fois la solution dans ce.
Oui, d'autant que le coût du pot de vin a considérablement augmenté.
Oui, le cours du pot de vin, notamment à Moscou, oui, parce que ça, l'émergence de la classe moyenne a effectivement induit une augmentation du cours du pot de vin. Faut aussi voir, et là c'est une critique que je formule pas, mais que tout ça, dans ces pots de vin, il y a beaucoup de pots de vin de confort. Voilà, hein, et c'est vrai que...
Que par exemple
Je me souviens d'avoir parlé récemment là, avec la directrice de Transparency International en Russie, donc l'ONG de lutte anticorruption. Et en gros, elle dit, il y a les pots de vin de survie. Ça, c'est, la police, la prison, enfin voilà, l'armée. Là, on vous demande de payer, il faut payer, il ne faut pas se poser la question. Mais quand c'est une démarche administrative que vous pouvez en théorie faire dans les clous, même si ça va prendre du temps, etc., et que vous choisissez par confort de rester assis et de glisser un billet pour que ça aille plus vite, il y a une forme de complicité dans, évidemment, de la société. Et c'est encore, là on extrapole, mais c'est un des mots d'ordre de cet hiver aussi, de manifestations, etc. Les gens ont commencé à dire, faut plus donner. Faut plus donner aux policiers, faut plus donner à l'école, faut plus donner. Et même à se taquiner un peu, genre alors quand est-ce que tu as donné ton dernier pot de vin ?
C'est un petit peu au cœur de l'opposition d'aujourd'hui, tu crois ?
En disant en toile de fond, en mouvement de fond, je pense que bon, le Navalny là, qui a dit parti des escrocs et des voleurs, il a fait mouche, mais il n'y a pas que le parti des escrocs et des voleurs, c'est une société d'escrocs et de voleurs. Donc là, tout d'un coup, les gens commencent à dire... Tiens, et si je réfléchissais à deux fois avant de donner le billet ?
D'accord.
Voir ce que ça va donner. Ça va être long, très long.
Dans les aspects, il y en a un aussi qui m'a frappé, c'est les aspects congé paternité. Puisque bon, je suis un homme, modestement. Ça m'a frappé, là aussi, c'est pas une question stéréotype qui vole en éclat, mais c'est, on n'attend pas... La Russie, je crois qu'il y a une histoire de législation qui fait qu'il y a un congé paternité aujourd'hui en Russie.
En fait, il y a un congé qu'on pourrait traduire comme congé de parentalité qui est systématiquement dans la pratique ou quasiment systématiquement accordé à la femme. Mais en fait, l'homme peut le prendre. Il ne le sait pas. Hein, alors là, je pense qu'à 99% des cas, ils ne le savent pas. Mais ça, c'est une des pépites de la loi. Et souvent, c'est le cas en Russie. La loi est beaucoup plus sympathique que ceux qui l'appliquent. Mais en fait, il suffit de prouver que la femme n'a pas pris de congé ou à ce moment-là, sur cette période de temps, n'est pas en congé pour pouvoir bénéficier en tant que papa d'un congé. Donc ça existe. Voilà. Nous, on est en train d'élaborer ça. Et en fait, chez eux, ça existe. Sauf qu'évidemment, c'est pas utilisé. Les papas n'existent pas.
Ils sont pas au courant. C'est marrant parce qu'ils sont pas au courant de pas mal de trucs, apparemment. Il y a un autre truc qui m'a frappé, c'était au niveau maternité, parce qu'on en parlait aussi. Le papa est écarté de la maternité. Ça, c'est impressionnant.
C'est très impressionnant. Et en fait, j'ai réussi à le remarquer avec l'expérience, pour le coup, de couples binationaux. Parce qu'avec des pères... européens qui évidemment avaient envie d'être associés à toutes ces démarches et donc venaient par exemple au rendez-vous avec l'obstétricien, venaient au rendez-vous avec le pédiatre et les pédiatres d'ouvrir des yeux ronds en disant « Oh là là, mais quel papa extraordinaire vous avez !» L'air de dire que c'était vraiment un extraterrestre. Et c'est vrai que ça, c'est un des enjeux. Ça commence à apparaître. Moi, je vois des jeunes papas russes qui sont très impliqués dans l'éducation et dans la petite enfance. Parce que voilà, c'est vraiment dans la petite enfance qu'ils commencent à être très impliqués. Ouais. Mais c'est vrai que le standard de base, c'est l'accouchement, les soins du nourrisson. C'est une affaire de femme. Les hommes là-dedans sont considérés comme des empotés qui n'ont même pas 10 doigts. Enfin voilà. En fait, on se rend compte que les femmes cultivent ou reproduisent elles-mêmes ou contribuent à alimenter un schéma de séparation des rôles très très net.
C'est impressionnant, et au point de se retrouver finalement seule à accoucher maternité sans possibilité de visite du père.
Ça c'est le schéma standard. Maintenant il y a de plus en plus de femmes qui demandent la présence du père au moment de l'accouchement, et qui demandent alors peut-être pas forcément la présence du père au moment de l'accouchement, mais des visites. Mais disons que traditionnellement, la maternité publique russe, c'est vous arrivez en ambulance, vous accouchez, vous sortez 3-4 jours plus tard, vous n'avez pas vu le père de votre enfant.
D'accord.
Et avec des scènes complètement loufoques, moi, que m'ont raconté des pintades, justement, de montrer leur enfant par la fenêtre à leur papa. Quoi. Et alors, c'est justement celle qui m'a raconté ça, elle m'a dit. Mais il n'y a pas reprise de foi. La fois d'après, j'ai pris un type de contrat, enfin une formule me permettant d'avoir les visites du père.
Une situation difficile à vivre, a priori, des deux côtés, probablement.
Mais oui, je pense. C'est-à-dire que c'est là où, en fait, en filigrane de tout ce bouquin, moi, j'ai envie de dire aux hommes, secouez-vous, quoi. Vous avez une place à prendre, une place à faire aux femmes, et une place à prendre aussi, parce que...
Une place qui est faite et dont ils ne sont pas au courant.
Oui, oui. Alors après, il faut aussi que les femmes... Parce que moi, je vois beaucoup de jeunes mamans qui sont très... qui alimentent aussi ce truc de « bon, les papas, ça ne sert pas à grand-chose, quoi ». Alors que si, moi, je suis convaincue du contraire, mais bon.
Étonnant. On a parlé très rapidement du féminisme au tout début de l'interview. Il y a une phrase de ton bouquin qui m'a frappé aussi, il y en a beaucoup. C'est « Les Russes, donc les femmes, n'arrivent pas à concilier féminisme et féminité, incompatibilité conceptuelle. »
Voilà. En fait, il faut vraiment dérouler l'histoire. Il y a eu un féminisme en Russie à l'époque révolutionnaire, comme il y en avait dans toute l'Europe, avec des cercles féministes qui ont d'ailleurs été assez actifs au moment de la révolution de 17, et ce qui a donné des acquis sociaux très importants pour les femmes, l'accès à l'université, enfin l'accès à l'éducation, l'accès au travail sans discrimination, et en fait l'Union soviétique, le système soviétique a produit un truc assez étrange, c'est que comme très tôt les femmes ont eu l'égalité formelle, garantie par la Constitution, ont eu le droit de vote, ont eu le droit à l'IVG. Dans les années 60-70, quand les féministes occidentales se sont réveillées, en Union soviétique, on les a regardées un peu comme des brûleuses de soutien-gorge un peu capricieuses. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est cette méprise. C'est-à-dire qu'en fait, le féminisme tel que conçu dans sa notion soviétique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des droits formels sans aucune réalité. Parce qu'évidemment, derrière les droits formels, en dehors du droit de vote et du droit à l'éducation au travail, mais dans la vie quotidienne, ça n'a rien changé. La femme soviétique, non seulement elle devait être l'ouvrière modèle ou l'ingénieur modèle, mais en plus, il fallait qu'elle assume toutes les corvées du foyer. Donc c'était vraiment la double peine. Il y a une méprise conceptuelle vraiment fondamentale, et n'importe quelle personne, mais vraiment exception faite des Russes qui ont vécu en Europe ou aux États-Unis, elle se pince le nez, quoi. On dit féminisme, c'est au secours, poil aux pattes, pas de soutien-gorge, cheveux gras, enfin voilà, elles sont dans les clichés vraiment les plus éculés. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai dialogue à construire sur cette question, mais de façon apaisée, sereine, voilà.
En fait, elles en font sans s'en rendre compte.
Moi, je suis persuadée qu'elles sont féministes sans le dire, mais...
Et c'est impressionnant, ça va loin, tu dis aussi, sans doute n'ont-elles pas besoin de ce gros mot pour s'imposer et en imposer.
Oui.
Fière, fantasque, féminine en diable, ce sont là des oiseaux d'exception, même leur voler dans les plumes est un plaisir.
c'est vrai que c'était une aventure passionnante. Oui, je suis convaincue qu'elles sont féministes sans le dire, sans jamais le professer, mais simplement par la réalité de leur vécu et de leur quotidien, qui est souvent assez, assez difficile et dans lequel... Moi, je trouve, et les femmes russes sont des femmes qui se battent beaucoup.
Tu vois un espoir de voir les hommes russes s'adapter à tout ça ?
Bah, j'en vois quelques-uns. J'en vois quelques-uns, mais c'est vrai que il y a du boulot. Il y a du boulot. Non, mais alors j'en vois, y compris dans des chemins de vie, c'est-à-dire des gens qui, de leur, comme ils se marient très jeunes, hein, mais disons de leur 22 à 32 ans, ont été des parfaits goujats, qui ne se sont jamais préoccupés de quoi que ce soit, et puis un divorce, parce qu'évidemment le couple là dans ce cas-là va très mal, divorce, puis alors là ils se mettent à réfléchir, voilà, et à se dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai raté, et voilà, et puis il y en a d'autres pour lesquels évidemment et heureusement ça se passe bien et qui ont une vision plus apaisée des choses, qui sont capables de s'investir, de prendre leur place. Et là, c'est vraiment, c'est les générations qui arrivent là. Là, on va, c'est vraiment, ça commence maintenant.
On serait au début d'une transformation masculine.
Ouais,
hein,
ouais.
À suivre alors.
À suivre, évidemment. Les pintades le retour dans 15 ans.
Bah, écoute, c'est très intéressant. Je te remercie pour cette interview, pour le temps que tu m'as accordé.
Avec plaisir.
J'espère que ça vous a plu à tous. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, puisqu'il y en a beaucoup plus dans le livre « Une vie de pintade à Moscou », je vous conseille fortement, c'est très marrant, vous passerez un bon moment avec ça. Et à très bientôt sur ici.fr.
Moi, je veux juste ajouter un tout petit mot avant la conclusion, histoire de...
Vas-y.
Simplement, je suis très contente d'avoir un lecteur homme. Tu n'es pas le seul, j'en ai quelques-uns. Et ce livre, c'est un peu un ovni, hein. C'est ni de la presse féminine, c'est ni complètement un guide de voyage. On peut voyager dans son fauteuil, j'espère. Et surtout, c'est pas un truc de fille. Voilà. Moi, ça me fait plaisir que Thérèse est un homme. Et,
ça m'a touché en lisant. Il n'y a aucune agressivité. C'est tout à fait. Il n'y a pas de jugement. Voilà, les choses sont telles qu'elles sont. On fait avec. Et puis on voit si les choses vont évoluer. Quoi. Mais voilà, et tout ça illustré de beaucoup d'humour, de beaucoup d'exemples très concrets. Bravo.
Merci beaucoup.